en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Réaliser un bulletin océanographique, rien de plus simple, pensez-vous ? Pourtant, il aura fallu 20 ans à une jeune équipe de chercheurs français avant d'obtenir des résultats reconnus par leur pair et avec des applications révolutionnaires pour prévenir les catastrophes. Cette technique s'appelle l'océanographie opérationnelle. Pierre Bahurel, océanographe, directeur de Mercator Océan et coordinateur de MyOcean, à l'initiative de cette aventure, nous livre une petite histoire de l'océanographie opérationnelle passionnante et avec beaucoup d'humour, dans une conférence réalisée au Bureau des Longitudes en novembre 2010. Canal Academy retransmet cette conférence. Vous pouvez suivre ses explications en téléchargeant sur notre site le support visuel de la communication de Pierre Bahurel. On l'écoute.
L'océanographie opérationnelle, je vais d'abord en donner une définition parce qu'on se met tous d'accord. Ça consiste à donner l'information sur l'océan dont on a besoin au moment ou à l'endroit où on en a besoin. Donc c'est quelque chose d'assez vague et d'assez précis, vous choisissez, mais l'océanographie opérationnelle, c'est tout son intérêt, c'est que justement on peut lui donner un peu le sens qu'on veut. En gros, il s'agit de connaître la température de l'eau partout dans le monde et, ou la salinité à 3000 mètres si vous le souhaitez, ou la hauteur d'eau près de chez vous. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment cette discipline qui est assez nouvelle, qui est assez récente, elle date d'une vingtaine d'années maximum, s'est développée. Et à chaque fois, il y a trois ou quatre fondamentaux qui sont retrouvés. Donc je voudrais vous raconter ça sous cette forme-là. Donc, d'abord, le début de l'histoire, il commence toujours avec des observations en mer. Et donc des gens qui vont en mer, qui lancent des bouées à l'eau, qui vont les chercher, qui mesurent, qui calibrent finement, qui reviennent en laboratoire, qui gèrent ces données. Donc il faut des vraies marins. L'océanographie opérationnelle ne serait pas née s'il n'y avait pas eu également des observations par satellite qui ont vraiment déclenché, donné un nouveau rythme au dispositif d'ensemble. Ici, on a Topex Poséidon, qui est un satellite qui est maintenant un peu ancien, mais qui a lancé cette discipline de l'océanographie opérationnelle en donnant des mesures partout dans le monde, en surface. Ça mesure l'élévation du niveau de la mer. C'est un satellite du CNES et de la NASA. Et grâce à lui, on a eu des informations précises partout dans le monde et assez vite en temps réel. Donc il faut des mesures en mer, il faut des observations satellites, il faut également quelque chose de très important qu'on oublie souvent de citer. Il faut des gens pour travailler à tout ça, qui se lancent dans ces projets-là, qui ont une certaine connaissance a priori et qui sont d'accord pour partager avec d'autres et volontaires pour aller chercher d'autres histoires. Vous apercevez en Christian Leprovost, que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr, et qui nous a accompagnés pour le lancement de cette idée de l'océanographie opérationnelle. Christian Leprovost, médaille d'or du CNRS, et qui a contribué en particulier par des travaux sur la marée océanique, mais qui a également pas mal aidé à structurer l'activité de modélisation de l'océan pour cette océanographie opérationnelle que je vous présente aujourd'hui. Donc on a des mesures en mer, on a des satellites, on a une communauté d'ingénieurs et de chercheurs prêts à travailler ensemble. Et le quatrième élément qui est absolument nécessaire, et parfois on en manque, il faut une ambition, une bonne idée et une ambition. Donc l'ambition de l'océanographie opérationnelle, c'était la suivante. Il nous faut des satellites, des mesures in situ, intégrer tout ça dans un modèle numérique, faire vivre ce modèle et avoir des prévisions dans le temps. Donc c'est exactement ce qui se passe en météo, donc on n'a pas besoin d'expliquer ça très longtemps. Et on a décidé, il y a quelques années, de faire la même chose pour l'océanographie. Donc on est parti là-dedans, et le premier essai a été réalisé, donc on est avant les années, on est en 90, 93, 95. On a démarré avec un petit modèle qui représentait ce que vous observez sur cette carte ici, c'est l'Atlantique Nord-Est, vous observez les côtes européennes ici, et puis ces couleurs qui ne sont pas très jolies, présente les grandes variations du niveau de la mer et donc les grands courants. Si vous suivez les lignes de couleur, vous avez des grands courants. Donc vous observez ici le courant des Açores qui redescend vers le sud et puis un bout du Gulf Stream qu'on voit apparaître ici. On a développé un modèle numérique pour représenter cette région du monde, ce qui correspond à peu près à ce qu'il y avait dans les livres à cette époque, c'est-à-dire des grands courants bien placés, mais assez calmes, on va dire. On a intégré l'observation des satellites, c'est-à-dire qu'on a injecté toute l'énergie qu'un satellite peut observer, et on a regardé comment notre modèle réagissait. Donc, quand on injecte l'information qui est observée par les satellites, on voit tout d'un coup des tourbillons qui se forment à la surface, et c'est toute l'information du satellite qui est transmise au modèle numérique, qui maintenant se sent contraint pour les années futures et pour la nuit des temps d'intégrer cette information du satellite, qui voit donc beaucoup plus de détails. On voit ici des petits tourbillons qui montrent la réalité de la circulation océanique dans ces régions, et ces modèles numériques qui étaient capables d'intégrer ça sont maintenant, de façon opérationnelle, équipés pour intégrer l'information des mesures satellites. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est plutôt développé dans les régions non maritimes, c'est-à-dire que ces techniques-là ont été développées d'abord à Grenoble, et puis ensuite transmises à Toulouse, et on a vu apparaître le secteur marin de la Bretagne qui disait qu'il était temps quand même d'aller voir en mer si ce modèle numérique virtuel, donc, et puis ces informations satellites qui sont bien loin, étaient capables de reproduire une réalité. Et il y a eu cette expérience qui est vraiment fatale parce qu'elle a tout déclenché aussi, elle a lancé tout le monde dans la pente pour que cette océanographie opérationnelle prenne son essor. C'était en 93. Il y a des navires qui sont allés au large des Açores. Les continentaux ont proposé un modèle numérique qui décrivait la réalité de ce qu'ils pensaient, en tout cas de ce qu'ils pensaient être la réalité. Les navires sont allés sur place, ils ont largué des bouées dans la région. Ce que vous observez ici, c'est en fond de carte la situation au large des Açores vue par un modèle qui a intégré une information satellite et superposée des bouées qui ont été lancées sur place. Et donc évidemment, si le modèle a raison, ces petites bouées vont suivre les fronts que le modèle a prévus. Et si le modèle a tort, et bien les bouées qui connaissent la réalité vont traverser ces lignes de courant sans tenir compte de la prévision. Alors c'est ce qu'on a essayé. On observe ici, vous voyez ici l'animation qui nous montre qu'on a des bouées qui reconnaissent ici qu'il y a bien un tourbillon. Le front des Açores est assez bien marqué. Et ça, c'est une petite expérience qu'on a faite en octobre 1993, qu'on a montré à un certain nombre de gens. Et on s'est dit, à partir de là, il n'y a plus tellement de raisons de ne pas aller beaucoup plus loin et de ne pas développer une océanographie capable de faire ça à grande échelle, puisque finalement, on est capable, à partir d'un modèle numérique, d'observation satellite, de mesures en mer, de gens qui sont motivés, qui ont trouvé une bonne idée, de développer ça. Et donc, à partir de là, on a eu 10 ans de bonheur que je voudrais partager avec vous. En juin 1995, on s'est réunis dans un petit coin du Périgord avec un certain nombre de personnes. Donc, moi, j'étais le plus jeune de la bande. On a décidé de faire un système d'océanographie opérationnelle, de prévoir l'océan partout dans le monde. Donc évidemment, c'était quelque chose de complètement impossible avec les moyens dont on disposait à l'époque. Mais enfin, moi, j'ai eu l'imprudence d'y croire et donc on a développé ce dispositif-là. Et on a démarré le système avec une équipe pour préparer le premier bulletin de prévision océanique. On a pris 18 mois pour le faire et le 17 janvier 2001, on a diffusé le premier bulletin de prévision de la situation de l'Atlantique Nord pour le 17 janvier 2001 avec une prévision pour la fin du mois de janvier qui a été présentée à tous les organismes publics qui avaient partagé cette ambition, qui avaient eu le courage de croire à cette ambition-là. Donc il y avait le CNES, l'IFREMER, l'INSU, donc le CNRS, l'IRD, Météo France et le CHOM, qui s'était lancé là-dedans. Et donc, pour la première fois en 2001, on s'est retrouvé à la tête d'un dispositif capable de décrire la température de surface de l'Atlantique. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait un peu l'habitude avec les cartes satellites. Mais évidemment, avec un modèle, on accède à une dimension, à la troisième dimension. Ici, vous avez une coupe verticale de la température entre la Floride et Gibraltar. Et la même chose avec la salinité, puisque le modèle a le grand mérite de pouvoir passer facilement d'une variable à l'autre. On a également testé la capacité à faire de la prévision océanique. Ici, vous avez une prévision au large des côtes du Brésil d'un gros tourbillon. Ici, c'est des courants de surface. Donc, on a des courants qui sont de l'ordre de 1 mètre seconde ici. Et on prévoyait pour le 11 avril 2001 un tourbillon assez important qui allait racler les côtes du nord-est brésilien à partir d'une information observée qui était beaucoup plus confuse. Donc, on a prévu ça avec le modèle. Et courageusement, on a vérifié 15 jours plus tard que la prévision de notre système était assez conforme à une réalité qui a été observée plus tard. Donc on voit bien ici que les satellites qui sont passés ensuite ont confirmé la présence d'un tourbillon important dans les courants et donc qui peut modifier les conditions de navigation. On a tout mis en ligne, parce que c'était l'une des idées de départ que plus on partageait l'information, plus elle avait de valeur. Et donc à partir de cette époque-là, en 2001, sur le site de Mercator Océan, on s'est trouvé avec des informations disponibles sur la région qu'on couvrait à l'époque était l'Atlantique Nord, en profondeur, en surface et en temps réel de la température, de la salinité, des courants de cet océan qu'on apprenait à découvrir en trois dimensions et en numérique. Ensuite, on s'est lancé dans quelque chose d'un peu plus compliqué. C'était au-delà de l'effet de curiosité et de cet effet de surprise. Il s'agissait d'être pris un peu au sérieux pour le réalisme de ce qu'on faisait. Donc évidemment, là, on avait une communauté scientifique qui était à l'affût du sérieux qu'on allait mettre dans le dispositif. Et on nous voit ici en train de souffler un certain nombre de bougies qui correspondent au nombre de bulletins qu'on avait fait à l'époque. Et on s'est lancé dans des systèmes qui avaient une résolution beaucoup plus importante. Ici, vous observez à 870 mètres de profondeur ce que le modèle nous décrit sur les conditions de salinité au large sur le plateau ibérique, avec une turbulence qui est assez saisissante pour représenter la réalité de la turbulence qu'on observe à ces profondeurs. Et ici, on a donc la salinité, le champ de salinité, avec des tourbillons qui sont très stables dans le temps et qui vont traverser l'Atlantique et qui vont évidemment perturber pas mal les conditions environnementales et particulièrement acoustiques. C'est pour ça que, par exemple, que la Défense est assez intéressée par ce genre d'informations. Et donc, on a commencé à développer des systèmes qui permettaient d'accéder à cette turbulence et d'arriver à un degré de réalisme qui attirait l'attention des communautés d'utilisateurs ou des communautés d'applications. On a revu à partir de ce système-là, qu'on a maintenant, on a un modèle numérique qui intègre les informations satellites et qui est comparé régulièrement aux informations in situ, des bouées. On a revu tout ce qu'on connaissait des cartes des grands courants pour vérifier qu'on était conforme à, cette connaissance de l'océan. Ici, la carte du Gulf Stream, bon, là, on se rend compte à partir de ce qu'on accède à des niveaux de détail qui commencent à forcément intéresser les gens qui étudient ces régions ou qui travaillent ou qui naviguent dans ces régions-là. Ici, vous avez les courants à la surface dans le détroit de Gibraltar avec des courants qui nous montrent des tourbillons qui sont assez importants, qui vont évidemment avoir de l'influence sur la navigation et bien d'autres choses. Et puis, on a continué à travailler jusqu'au point de fournir des informations à des opérationnels comme Météo France, qui étaient confrontés à cette époque-là à des problèmes avec le naufrage du Prestige et donc l'échouage ou la prévision d'échouage du pétrole sur les côtes espagnoles et françaises. Dans le feu de l'action, on a été très discret et très prudent, parce qu'il ne s'agit pas de déranger des équipes qui sont sous le feu des opérations à mener. Et après coup, on a travaillé avec eux pour intégrer les informations de courant qui venaient de ces systèmes de prévision opérationnelle dans leur système de prévision de dérive de nappe opérationnelle, de telle sorte que l'information des courants océaniques qui venaient de ces grands modèles-là se permettent d'améliorer les prévisions. Et c'est ce qu'on a observé après coup. On a comparé, la petite animation nous montre une comparaison avec ou sans Mercator, et on observe qu'avec des informations de type océanographie opérationnelle, on améliore les conditions de prévision et on est capable de prévoir avec une bien meilleure précision les conditions et le lieu et la date d'échouage ici du pétrole, mais ça peut être autre chose. Donc on rentre maintenant dans des filières d'applications opérationnelles où il s'agit maintenant d'être très réaliste dans ce qu'on propose. Donc voilà des exemples, une prévision de température à la surface de l'eau, ici une prévision de la salinité à 1000 mètres de profondeur, où on voit évidemment une Méditerranée très salée qui déverse son sel dans l'Atlantique. On a une capacité à surveiller la Méditerranée, donc vous observez que depuis le début, depuis 2001, on a intégré la Méditerranée dans la zone de couverture du système, donc on a un système qui a des résolutions plus faibles, donc une meilleure précision et une couverture géographique plus étendue. On arrive à décrire le Gulf Stream avec un luxe de détails et vraiment rentrer dans des précisions qui permettent d'intéresser des communautés très différentes. On peut avoir évidemment les navigateurs, on peut avoir la recherche qui va aller travailler sur les interactions de tel et tel tourbillon, on peut avoir les personnes qui s'intéressent aux ressources halieutiques, donc qui connaissent les comportements des espèces marines par rapport aux fronts chauds, fronts froids, qui commencent à trouver dans ces informations-là une nourriture appréciable pour leur travail ou leur recherche. On regarde le golfe du Mexique, on a maintenant une vision de l'ensemble de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée. Dans le golfe du Mexique, ici, on a une prévision ou plutôt une simulation qui nous montre l'évolution de la topographie du golfe du Mexique. Donc les zones rouges sont les zones plus élevées qui correspondent, je vais dire, pour simplifier à des zones qui sont plus gorgées d'énergie. Et on voit qu'avec ce genre de système, on est capable d'assurer une surveillance du niveau d'énergie dans le golfe du Mexique. Et on a évidemment en tête que lorsqu'on a des phénomènes comme Katrina qui vont aller dévaster les côtes américaines, on observe ici la trajectoire du cyclone qui survole un océan qui, plus il est rouge, plus il est gorgé d'énergie, qui va se gorger d'énergie ici avant d'arriver sur les côtes américaines et qui donc grandit en intensité parce qu'il rencontre un océan qui est favorable à ça, puisqu'il a un phénomène de pompage et plus l'océan a de l'énergie, plus ce cyclone va s'intensifier en passant au-dessus de l'océan. Et donc évidemment, on commence à trouver également un intérêt dans la communauté des spécialistes de ces prévisions de cyclones, de trajectoires et d'intensification de ces phénomènes-là, grâce à une surveillance opérationnelle des océans. Alors là, on est encore avec l'Atlantique Nord et la Méditerranée. On commence à se roder sur des systèmes qui ont une résolution qui est assez importante. Je ne vous l'ai pas dit, vous l'avez peut-être deviné, mais ce sont des systèmes qui sont très très coûteux en termes numériques, qui vont saturer les supercalculateurs. Donc à chaque fois qu'on développe des nouveaux systèmes, on est toujours en limite de saturation des calculateurs qu'on utilise. On travaille pour ça en partenariat avec Météo France, qui nous accepte dans les créneaux laissés libres par la prévision météo, qui est évidemment prioritaire pour faire tourner des systèmes pareils. Et là, on décide d'aller encore plus loin et de passer à l'échelle du monde entier. Donc on est un peu avant 2005, donc on parcourt ensemble ces années-là. On a ici la vision planétaire d'un satellite, ici la topographie de la surface de l'eau, mais qui est vue cette fois par le modèle, donc qui est capable de reproduire. C'est la moindre des choses, ce que satellite permet d'observer. Ici, c'est la température de l'eau. Donc on voit évidemment une carte du monde auquel on s'était habitué avec les images satellites, avec des eaux plus chaudes proches de l'équateur et plus froides, bleues, dans les hautes latitudes. Et on a un système numérique qui est maintenant capable de décrire ça. On arrive progressivement à étendre notre couverture géographique. Donc là, maintenant, on est au monde entier. Et on va entreprendre une deuxième conquête, qui est la conquête des différents, de la physique. Et donc, on va rajouter à notre système d'océanographie opérationnelle la modélisation de la glace de mer. Et on découvre les pôles et on intègre à nos systèmes une capacité à décrire la concentration de glace, la dérive des glaces et évidemment la couverture de glace au pôle nord et ici au pôle sud. Et donc, pour la première fois en octobre 2005, donc on a parcouru un petit chemin ensemble depuis 2001, on a un système de prévision qui est pour l'océan mondial, qui marche exactement sur le même principe, qui fonctionne exactement sur le même principe, avec des personnes qui sont aux manettes, qui vont faire tourner un modèle numérique, qui va assimiler des informations satellites, qui va intégrer également les observations en mer, qui jusqu'à maintenant ne servaient de comparaison, mais à partir de là, on va les intégrer dans tous nos systèmes comme une information qui rentre directement en données d'entrée. Donc notre système, il est compatible avec toutes les observations disponibles en mer ou par satellite, et reproduire une information qui est cohérente dans l'espace et dans le temps, à l'échelle de l'ensemble du globe. Et là, évidemment, on arrive à une nouvelle visite de l'océan. On peut revisiter l'ensemble du dispositif. On a tout mis, comme c'est notre habitude et notre conviction, on a tout mis en ligne sur notre site. Et on peut choisir cette fois la région qu'on va aller visiter, d'une visite globale jusqu'à passer par le Pacifique ou l'Indien. Et donc, si on va commencer par aller visiter des régions qu'on n'avait pas trop l'habitude d'explorer, puisqu'on était plutôt cantonné à l'Atlantique et la Méditerranée, si on va dans le Pacifique et l'océan Indien, on retrouve une connaissance qu'on avait déjà partagée avec d'autres, qui est évidemment des courants puissants dans ces régions-là. On peut aller voir au large du Japon l'équivalent de notre Gulf Stream Atlantique, mais cette fois dans le Pacifique, avec des méandres qui sont très marqués, et pour cause, ce sont des phénomènes qui sont évidemment comparables, avec des résolutions ici qui ne sont pas encore parfaites, mais qui permettent d'atteindre un premier degré de réalisme à l'échelle du globe entier. On peut regarder à 100 mètres de profondeur ce qui se passe au sud de l'Afrique. Vous savez que c'est une zone qui est importante pour la navigation, évidemment pas à 100 mètres de profondeur, mais en surface on a une turbulence qui est très marquée, avec des navires qui attendent des conditions favorables. On voit qu'on observe qu'à 100 mètres de profondeur, on a encore une marque de turbulence assez forte. On est assez impatient également de se frotter à cette modélisation et à cette surveillance de la glace ici. Donc c'est ce qui se passe au nord du Canada avec la glace de l'Arctique. Et puis le courant circumpolaire de l'Antarctique qui sont très souvent utiles aux navigateurs, qu'on a également rentré dans le système. Donc on a maintenant une capacité, à partir de là, à travailler avec un océan à l'échelle du monde entier. Et on a un peu l'impression qu'on a atteint un premier niveau. Je vous avais expliqué qu'on avait un premier cycle, on avait une première idée, une première ambition qui était de faire tout ça. On s'est donné rendez-vous à 5, 7, 10 ans, donc on l'a fait. Et il s'agit maintenant, on est en 2005, de redémarrer une nouvelle histoire. Puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans ces disciplines scientifiques, ou peut-être dans la vie en général, je ne sais pas, mais en tout cas, on y est et on repart avec les mêmes histoires et les mêmes idées et les mêmes fondamentaux, parce que je pense que cette océanographie opérationnelle repose là-dessus. Donc on a de nouveau des observations en mer. On a cette fois des systèmes qui sont beaucoup plus opérationnels qu'avant. On a des systèmes qui sont basés, par exemple, sur un système comme Argo, qui est un système exceptionnellement simple en apparence, mais tellement performant, qui consiste à mettre à l'eau des réseaux de profileurs qui vont être autonomes, qui pendant 10 jours vont plonger, vont mesurer ce qui se passe en température et en salinité à 1000 mètres de profondeur, remonter, transmettre par satellite, replonger et faire ça pendant 2 à 3 ans tant que le système reste fonctionnel. Et donc évidemment, on va avoir régulièrement des informations qui vont remonter et qui vont nous informer sur la structure interne de l'océan. C'est exceptionnel, mais c'est tellement coûteux, tellement compliqué qu'il y a un autre deuxième défi qui se pose, qui n'est plus un défi technique, qui est un défi d'organisation. Il consiste à faire ça au niveau international pour que chacun des pays intéressés puissent y contribuer et ça a fonctionné très très bien. On a ici un système qui marie de façon complètement transparente l'Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, les États-Unis, l'Europe, etc. Tout le monde y est, ou tous ceux qui, même il y en a qui mettent un flotteur, d'autres qui en mettent 1000. L'essentiel est de participer. Observation par satellite, Topex Poséidon, on en a parlé tout à l'heure, il lui a succédé Jason 1, qui est un satellite qui est de la même filière altimétrique, qui est également sous pilotage CNES-NASA, avec cette fois les Européens de Medsat et la NOAA américaine qui se rallient à ça. Donc on a une filière qui se structure, ça aussi c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une structuration d'une filière opérationnelle. On a des gens qui sont toujours là et donc le nombre a grandi. Et puis on a une autre idée, et cette idée c'est de commencer à travailler à l'échelle européenne, puisqu'évidemment on a des collègues dans différents pays qui travaillent sur des sujets assez similaires, et on sait bien qu'on commence à toucher un peu les limites de ce qu'on peut faire tout seul. On avait déjà fait ça au niveau international, et là on va commencer à structurer, partager, mutualiser et s'organiser pour éviter de faire des choses en double lorsque ça n'est pas nécessaire au niveau européen et d'aller plus vite pour développer cette océanographie opérationnelle. Et quand on regarde la situation à cette époque-là, on a dans le monde des centres de prévision océanique qui commencent à se structurer. Donc on a les centres européens, donc en Grande-Bretagne, en Norvège, en Italie et en France avec Mercator Océan, on a des centres qui commencent à se connaître assez bien, des équipes qui travaillent ensemble depuis longtemps. Les États-Unis évidemment, le Japon a été un des premiers également, et l'Australie. Et puis on a été rejoint dans cette association par le Canada, puis la Chine et d'autres. Et ça, je parle ici des équipes qui font tourner des modèles numériques de très grande taille pour faire des prévisions à l'échelle d'un océan ou d'un bassin comme la Méditerranée ou de l'ensemble du globe. Évidemment, quand on regarde les observations sur le satellite ou sur les in-situ, on a une communauté qui est beaucoup plus large, qui se rallie sur cette carte. Alors on fait un essai. On dit, bien, puisqu'il s'agit de travailler à une excellence européenne, on va travailler à une mésoéchelle sur tout le globe. La mésoéchelle, c'est cette capacité à décrire les petits tourbillons, les tourbillons qui font une centaine de kilomètres, qui correspondent à la météo des océans. C'est comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les cartes météo. C'est l'échelle qu'il est nécessaire d'atteindre pour pouvoir avoir un degré de réalisme dans la description des méandres et des tourbillons, par exemple. Alors on décide de le faire et on décide de quadriller l'océan avec un maillage au 12e de degré. Voilà, on était tout à l'heure précédemment on était à 25 km de maille, on va descendre à 5 km pour donner un ordre de grandeur. Et donc évidemment, c'est un système qui coûte bien plus cher d'un point de vue numérique, qui va une fois de plus saturer l'ensemble des dispositifs, les systèmes d'archivage vont avoir du mal à tout engorger, mais on accède à l'échelle de l'ensemble du globe à quelque chose qui est de très haute qualité. Et j'illustre ici, et si vous êtes au large de la Californie, vous avez une image qui vous donne la température dans cette région du Pacifique, vue par une image composite à partir de l'information des satellites. C'est ce à quoi on peut accéder dans une filière opérationnelle qui est essentiellement basée sur des satellites pour la météo. Lorsqu'on prend le premier système que Mercator avait mis en route, que je vous ai présenté tout à l'heure en 2005, on voit qu'on arrive à affiner un petit peu la situation, on a plus de détails, on voit mieux les fronts, sont plus marqués. Lorsqu'on met en route le système à plus haute résolution, on arrive cette fois à avoir un degré de finesse de descriptif qui, là encore, marque les esprits et commence à intéresser les gens qui s'inquiétaient encore de savoir si l'océanographie opérationnelle allait un jour fournir une information qui soit d'assez haute facture pour être intéressant d'un point de vue scientifique et technique ou applicatif. Donc ici, vous avez ce à quoi on accède et ce qu'on avait auparavant. Et quand on regarde d'autres régions du monde, vous avez ici au large de la mer Jaune, donc du Japon et de la Chine, la situation vue par un satellite, par un premier système Mercator 2005 et par le système 2008 qui nous montre ici des méandres qui commencent à être assez saisissants. Je vous continue le petit tour du monde. Ici notre Gulf Stream, alors un front très marqué sur les images. On voit bien ici des eaux très froides qui viennent du nord en bleu, des eaux chaudes. Si on regarde ce que notre système, le dernier, je ne vous fais plus d'intermédiaire, nous donne, on a ici quelque chose qui est très très intéressant parce qu'on commence à voir des structures tourbillonnaires qui vont être stables ou pas, qui vont vivre au fur et à mesure du temps qui passe dans le système et qui évidemment vont susciter pas mal d'intérêt. Donc là, notre Gulf du Mexique qu'on avait surveillé, voilà ce que nous donnent les satellites, voilà ce que nous donne le futur système. Donc on a quand même des images qui, au moins à l'œil, sont plus agréables à regarder. Et ensuite, il faut que vous me croire un peu pour lorsque je vous dis qu'en plus, ça éveille des questions qui sont intéressantes et pas mal d'estime de la part des communautés qui sont intéressées par ça. Notre Europe, avec la Méditerranée et le Grand Atlantique et l'Ouvert Atlantique, avec, vous voyez ici maintenant ce à quoi on accède, et ça, on pousse un petit peu la limite du dispositif et on a accès à ça en temps réel. On a évidemment, donc ça c'est la région d'El Niño, voilà ce que nous donne notre système, on a évidemment accès à ça dans les trois dimensions, donc de la surface jusqu'au fond, et évidemment avec des évolutions dans le temps. La zone de confluence au sud de l'Amérique du Sud, l'Indonésie, une zone très complexe, où là on travaille en ce moment à essayer d'affiner encore plus pour être plus réaliste dans tous ces petits détroits qui rendent les choses si compliquées dans cette région. L'océan Indien, donc à partir de là, à partir du moment où on a accès à ce dispositif, qu'on a développé l'ensemble de ce système, on va essayer de travailler à organiser les choses au niveau européen pour travailler tous ensemble. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est la contribution de Mercator Océan France à un dispositif européen. Évidemment, on va avoir un intérêt à aller travailler de façon plus étroite avec les Norvégiens dans l'Arctique, qui sont bien meilleurs que nous, avec les Italiens dans la Méditerranée, avec les Espagnols dans l'Atlantique, avec les Britanniques dans la mer du Nord, etc. Et on a maintenant une histoire qui change un tout petit peu, qui nous fait un peu changer de métier pendant un moment, c'est-à-dire que les scientifiques que nous sommes au départ, on a une nécessité d'aller faire un tour du monde et convaincre que cette océanographie opérationnelle qu'on a essayé, testée, et dont on a démontré la faisabilité peut intéresser. Parce que ce qu'on cherche là, Ce qu'on cherche, c'est un soutien communautaire, c'est un soutien au niveau européen pour pouvoir développer ce système et développer une base d'un système qui permette d'approcher un système pérenne. Alors on y va et on commence, on a développé ce tour du monde des applications et chacun est allé chercher des illustrations avec des communautés d'utilisateurs de l'intérêt de cette nouvelle information d'océanographie opérationnelle. Alors si on commence par la Méditerranée, on a par exemple un exemple qui nous est donné avec le routage des navires. Vous savez qu'à Malte, il y a un important hub maritime de la compagnie maritime CMA-CGM qui travaille ici. On a ce type de courant qu'on peut observer. Vous avez Malte. L'information de notre système nous dit que vous avez un courant très fort ici en septembre 2008 qui va contourner l'île de cette façon-là. La réalité des choses nous permet de dire que les navires vont généralement aller tout droit parce que c'est la route qu'ils connaissent et qu'a priori c'est le plus simple. On calcule et on montre et on démontre qu'ils peuvent faire une économie substantielle de carburant en prenant la route maritime qu'on leur propose et on leur glisse au passage que s'ils avaient la faiblesse de penser que cette route était une route permanente, ils seraient inspirés de regarder que deux mois précédemment, là pour le coup il aurait mieux fallu aller tout droit puisque évidemment les courants étaient différents. Et donc on commence à travailler sur un domaine applicatif réel dans beaucoup de secteurs différents. C'est un exemple qui est le routage, d'autre exemple qui est une activité de type opérationnel offshore également. Si on va au large de l'Afrique ici, on a des courants qui sont évidemment assez variables. On a une activité de prospection pétrolière qui est assez intense ici. Ici, c'est les courants en surface et plus bas, les courants en profondeur à 300 mètres. Or, c'est important parce que les systèmes de forage sont maintenant assez dépendants des conditions de courants en surface et au fond qui peuvent créer, ou à 300 mètres, peuvent créer des cisaillements et rendre les opérations dangereuses. Donc, ils vont avoir besoin et ils ont besoin aujourd'hui d'une information qui est fiable, qui n'est pas simple à fournir avec la fiabilité qu'ils demandent, mais ils sont demandeurs d'une information fiable sur les conditions de courant en profondeur qui pourraient rendre délicates les opérations de prospection ou de forage qui réalisent dans ces régions. C'est un exemple pour l'Indien. Si on retraverse et qu'on va jusqu'au golfe du Mexique, on a ce golfe du Mexique qu'on connaît, on pourrait aussi travailler sur l'exemple du pétrolier ici, qui est malheureusement assez célèbre en ce moment, mais on a ici un autre exemple d'un cyclone, donc le cyclone Jeanne, qui est septembre 2004, et ici, vous voyez qu'on a ce cyclone qui fait une petite boucle ici, et on voit qu'il pompe l'ensemble de l'énergie, puisque la température descend au fur et à mesure de la progression du cyclone, qui va ici pomper l'ensemble de l'énergie et hop, repartir sur la Floride. On a maintenant mis en place un système de monitoring, de surveillance permanente de cette région-là, qui est transmis aux équipes impliquées. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'Arctique, on a évidemment, alors ça c'est un produit qui est un produit norvégien, je ne l'ai pas dit, mais en vous montrant l'ensemble de ces dispositifs-là, j'ai choisi à dessein des informations qui venaient de différentes équipes en Europe, et pas que de Mercator Océan, puisque je vous ai expliqué qu'on avait comme objection maintenant de travailler en réseau pour structurer cette capacité européenne. Donc là, c'est un exemple norvégien où on a évidemment une surveillance de la couverture de glace, donc avec un exemple connu et souvent discuté, qui est la surveillance de l'étendue de la glace d'une année à l'autre. Et puis, on a mon dernier exemple qui est celui de la qualité de l'eau, qui est un autre domaine applicatif, où on est souvent dans les échelles très locales, et c'est d'abord là que ça se passe, mais on commence à avoir une demande d'avoir une vision plus générale. Les gens de la Baltique sont très avancés dans leur application des politiques environnementales là-dessus. Et donc, on développait des systèmes qui permettent... Alors là, ici, on a la température en surface, la salinité et la chlorophylle qui commencent à être utilisés comme des informations de première approche avant d'affiner à l'échelle locale et de voir comment gérer les politiques environnementales dans ces régions-là. Voilà. Ensuite, on peut reboucler, retourner en Galice, se redire que s'il y a un naufrage pétrolier, on a intérêt à avoir une surveillance de l'océan. Et on a fini par avoir fait un petit catalogue d'applications qui montre que non seulement c'est joli et impressionnant, mais en plus, il y a des domaines applicatifs qui commencent à être presque dépendants de cette information-là. Et il nous reste une autre chose à faire. On est toujours des scientifiques on reprend une autre exigence qui est de s'organiser pour travailler tous ensemble. Donc là, je vais aller rapidement, mais j'avais envie de vous le présenter parce que ça fait partie aussi de notre discipline scientifique et c'est même assez dominant en ce moment comme préoccupation de l'ensemble des personnes de cette communauté. On s'est fédérés pour travailler tous ensemble et développer cette capacité d'océanographie opérationnelle à l'échelle européenne, ce qui représente à peu près 350 personnes, 61 entités, c'est-à-dire établissements publics, universités, sociétés privées, 29 pays, pour travailler et avoir une seule mission qui est de fournir le bulletin d'analyse et de prévision océanique européen qui soit le meilleur possible, avec un accès libre et gratuit à tout le monde. Donc voilà la mission qu'on s'est donnée. On a structuré un réseau de centres dans l'ensemble de l'Europe. c'est-à-dire qu'on a assigné à chacun un rôle. On a identifié qu'il y avait en orange 7 grandes régions qu'on voulait surveiller, l'océan global, c'est ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, et c'est Mercator Océan qu'on est chargé, mais également l'Arctique, la Baltique, la mer du Nord, le Grand Gascogne, Méditerranée et mer Noire, et qu'en amont de ça, il fallait qu'on s'organise en Europe pour travailler à la préparation des données pour le niveau de la mer, la couleur de l'océan, la température, la glace de mer et tout ce qui est mesure in situ. Et donc on a travaillé à ça. Et la tête que je fais là, c'est parce que c'était quelques minutes avant de rentrer dans le bâtiment de la Commission européenne et de vérifier si oui ou non la proposition qu'on venait de leur faire était acceptée. Et donc j'étais à la tête de cette... Je travaillais au nom des 350 personnes qui attendaient de savoir si oui ou non la Commission européenne allait faire un chèque de 33 millions d'euros pour nous aider à faire ça. Et donc là, c'est juste après, vu que c'est signé. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, mais une fois que c'est fait, on est heureux, mais en fait, on est tout seul. Et donc, je suis allé, je vous montre ça parce que je suis allé avec je me fais mon petit reportage photo, j'avais marqué signé, et je suis allé à Bruxelles et j'étais tout seul. Alors là, je suis dans le métro, en haut à droite, je me prends en photo, et donc tous les gens de Bruxelles qui sont peut-être plus habitués que nous à voir des gens qui rentrent de la Commission européenne, mais m'ont regardé. Après, je suis allé sur la Grand Place, puis après, je suis allé au Manneken Pis, je me photographiais avec ça, et après, j'ai arrêté parce que tout le monde me regardait. Regardez, tout le monde me regarde avec mon enthousiasme. Et j'ai fini, je crois, à l'aéroport et je suis rentré. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a, dans l'histoire, là, on a un bagage scientifique qui est bien assez lourd, une communauté qui est fédérée et on démarre notre dispositif et on a maintenant un accès à un système de rang européen dans lequel on a injecté l'ensemble des informations qui viennent de différents systèmes qui sont disponibles en Europe. Et avec des informations maintenant, vous êtes habitués à les voir puisque je vous en présente depuis un bon moment maintenant, mais c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'on a un accès libre à l'information sur la température de l'eau, sur la région arctique avec l'épaisseur de glace par exemple, et ça, avec des informations qui viennent d'un peu partout. On a 350 personnes qui travaillent là, pendant les 3 ans, avec un seul objectif. On a 500 000 observations, on a compté ça, qui chaque jour traversent les différentes frontières de l'espace européen, et même ceux qui vont au-delà de l'Europe, puisqu'il n'y a pas tellement de frontières pour ce côté-là, pour que l'ensemble des modèles numériques qui tournent soient nourris en bonne observation. On a 700 000 milliards d'opérations par jour sur les supercalculateurs pour faire tourner les simulations océaniques. Voilà ce que ça coûte, ce genre de système. On a 500 gigas d'informations sur l'océan par bulletin de ce grand système qui s'appelle MyOcean. Et on a un seul point d'accès, parce que c'est ce qu'on a voulu, pour que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher en Italie ou en Norvège ou de parler danois pour récupérer le produit du danois. On a un point d'accès qui est fait pour que n'importe qui puisse y accéder. Voilà. Et donc, on accède grâce à ça à des informations qu'on n'avait pas jusqu'alors. C'est par exemple, quand on fait un petit tour du monde et qu'on va regarder en Arctique, on a accès à toutes ces informations in situ, donc toutes ces bouées, tous ces réseaux qui ont été déployés soit par des Norvégiens, soit par des Russes, soit par des Canadiens, soit par des Français, soit par d'autres, qui sont désormais gérés en commun et disponibles. L'ensemble de la communauté a accès à cette information qui est ce que je vous ai montré en avant-première tout à l'heure, qui est cette capacité à prévoir l'ensemble de l'océan avec une résolution de 12e de degré. Et on a maintenant, quand on regarde du côté froid, des personnes qui nous contactent pour savoir si oui ou non la route du Nord va s'ouvrir et quand. Et du côté chaud, des communautés qui normalement n'ont pas accès à ces capacités-là, qui vont, ça c'est un exemple que j'aime bien montrer, un exemple du Cap Vert, où qui vont ouvrir un centre de gestion des pêches. Vous savez que c'est une pêche de subsistance qui est très importante dans cette région-là et qui, grâce aux informations qui viennent de l'océanographie opérationnelle, va créer une équipe ou a créé une équipe de gestionnaires d'une pêche raisonnée pour cette région du Cap Vert. On voit des applications qui se développent là où elles ne pourraient pas se développer si on n'avait pas l'ensemble de ce dispositif en route. Donc on en est là, on recommence. Je vais bientôt arrêter. Mais on a des observations à la mer. Je rentre mes excuses parce que cette carte, elle date de septembre 2009. Vous voyez, il y a déjà 3261 profileurs en mer, donc ça se passe bien. Ceci dit, il faut toujours l'encourager. On a un système satellite Jason 2 qui a pris la suite de Jason 1. Et puis surtout, on utilise différemment, ou en tout cas dans notre système, de l'altimétrie, de la couleur de l'eau, de la température, de la glace. On travaille aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il y a un satellite qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne qui mesure la salinité, qui rentre dans nos systèmes également. On a toujours des gens et on a une ambition qui est de continuer encore. Je vous donne 3 exemples et j'arrête dans les ambitions qu'on a, qui est de relier l'océan à la côte. Je vous ai parlé beaucoup du grand large. Évidemment, il se passe beaucoup de choses à la côte. De relier la physique au vivant. Je vous ai parlé beaucoup de physique de l'océan, de la température, de la salinité. Évidemment, le vivant a une importance. Et de relier l'océan à la société. Je vous montre un essai. S'agissant du large à la côte, vous avez ici une simulation d'un des nouveaux systèmes qu'on fait tourner, qui est une résolution qui est descendue à 2 km à peu près, dans lequel on a intégré toute la physique de la marée, des hautes fréquences, et qui permet de représenter la situation de l'océan de façon continue, du large jusqu'à la côte. Ça, c'est la partie technique. La partie humaine, c'est que c'est une collaboration entre la France et l'Espagne. Et l'autre partie humaine, c'est que c'est une collaboration entre Midi-Pyrénées et Bretagne. Et donc, c'est de ces nouveaux systèmes qui vont irriguer cette nouvelle océanographie opérationnelle. Et là, quand on regarde un exemple, vous voyez ici, vous devez reconnaître la pointe de la Bretagne ici, et en déduire que le reste est plutôt britannique. Et vous avez ici des fronts de température qui sont vus par ce système-là, qu'on compare avec ce que les satellites observent. Et donc, on est assez satisfait de reproduire ces phénomènes-là qui sont observés. Donc, on est à chaque fois en train de revenir aux fondamentaux, qui est de comparer avec des observations qu'on n'a pas intégrées dans nos systèmes. Deuxième exemple, de la physique au vivant, qui est un enjeu qui est très élevé. C'est très compliqué, en fait, d'arriver à fournir aux gens qui étudient le vivant une physique qui soit assez réaliste pour leur fournir une information valable. Ce qu'on fait ici, c'est que ce que vous observez en bas, c'est le système Mercator mondial, donc global, pour couverture globale, avec de l'information dans laquelle on a couplé un système de biogéochimique, avec ou sans assimilation de données, et comparé avec ce que voient les satellites en chlorophylle, où on voit qu'on a les grandes tendances qui sont bien reproduites. C'est une autre paire de manches quand on s'intéresse à ce qui se passe au niveau local, mais c'est un des enjeux, évidemment, parce qu'avec ça, on arrive du côté du CO2, qui est un des sujets pour le climat, et du côté de la gestion des ressources, qui est un autre sujet. Et enfin, dernier exemple, s'agissant de l'océan Ennou, l'énergie thermique des mers. Vous savez qu'évidemment, il y a des différences de température entre la surface et le fond. Quand on prend 20 degrés de différence de température, ça veut dire qu'il y a l'énergie qui est disponible. Il y a des personnes qui commencent à s'y intéresser de près. Il y a des grands groupes qui s'y intéressent. Ici, on a fait un stage entre Mercator Océan et EDF pour travailler à ça. Et on a regardé ce que les systèmes comme Mercator Océan savaient dire sur les conditions favorables dans le monde pour installer des usines basées sur ce principe qui est finalement très simple. Et donc on a pris les simulations de Mercator Océan, ce que vous observez en bas. Ici, vous avez la différence entre la température à 5 mètres et la température à 1000 mètres pour voir un peu les grandes tendances. Quand c'est rouge, on est dans les 25 degrés de différence et les 20 degrés sont dans le jaune. Il y a trois régions qui ont été regardées en particulier qui intéressaient EDF, qui étaient la Martinique à gauche, la Réunion et Tahiti. Et on a regardé à quelle profondeur il fallait aller pour trouver une différence de 20 degrés entre la surface. Et alors on voit que c'est vers 600 mètres en Martinique, 950 mètres à la Réunion et 500 à Tahiti, mais qu'évidemment, il y a des différences du côté en fonction de l'endroit où on se trouve sur l'île. Donc on entre prudemment dans ce monde-là, mais on voit que d'emblée, il y a une information qui, même la première qu'on est capable de générer à partir d'un stage, qui d'emblée rencontre un intérêt. Et évidemment, ça a pas mal d'importance pour nous, qui vivons sur cette planète, d'être capable de trouver des sources d'énergie qu'on a juste à côté de nous et qu'on n'avait pas encore remarqué. Et je vous remercie de votre attention.
C'était Pierre Bahurel, océanographe, directeur de Mercator Océan et coordinateur de MyOcean, qui revenait sur les débuts de l'océanographie opérationnelle dans les années 90 jusqu'aux applications révolutionnaires aujourd'hui. Restez sur le site de Canal Academy et téléchargez les précédentes conférences du Bureau des Longitudes dans les émissions En Colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des Longitudes sont gratuites et ouvertes à tous. Pour connaître les prochaines dates, connectez-vous sur leur site au www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.